Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous, c'est le moment de votre émission préférée. L'invité du 12-13, un moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Aujourd'hui, nous accueillons Thomas Robert de Saint-Vincent, médecin généraliste à Seignos, président de l'association CPTS Côte-Sud des Landes, qui vient nous parler. Alors, vous allez voir ce que c'est encore un vilain acronyme, mais on va vous expliquer ce que c'est qu'une communauté professionnelle territoriale de santé. Bonjour Thomas, comment ça va ?
Bonjour, ça va très bien, et toi ?
Très bien, très bien. Eh bien, on va passer une petite heure ensemble, on va découvrir votre organisme, son fonctionnement et son actualité, parce qu'il se passe quelque chose très bientôt. Mais d'abord, nous allons écouter le Flash Info National et International. Ne bougez pas, on revient tout de suite. Et nous voilà de retour dans notre studio de TOS. Alors Thomas, en préambule, vous allez devoir nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une communauté professionnelle territoriale de santé et quels sont ses objectifs ?
Oui, bah, effectivement, c'est un petit peu long comme terme et c'est tout simplement une association en fait, hein, une CPTS qui, sur un territoire donné de quelques communes, en l'occurrence notre CPTS Côte-Sud des Landes, elle correspond à peu près au territoire de la communauté de communes de Max, à laquelle se rajoute Léon, hein, donc on est sur 24 communes. Et on a pour objectif de fédérer en fait les professionnels de santé libéraux autour de projets, et notamment de projets pour favoriser l'accès aux soins, permettre aux patients de trouver plus facilement un médecin, une consultation non programmée pour des petites urgences, et d'agir pour la prévention, le dépistage, faciliter les parcours des patients, hein, dans un certain nombre de problématiques de soins qui sont parfois difficiles. Voilà, c'est nos grands objectifs, ainsi que d'accompagner les professionnels de santé eux-mêmes, hein, que ce soit pour de la formation, pour les aider à être mieux accompagnés, lutter contre les difficultés d'isolement, etc. Mmh. Et on a aussi pour rôle de chercher à se préparer collectivement, voilà, co-gérer des crises sanitaires éventuelles. Comme d'accord. Ça a été le cas lors du Covid, en fait.
Oui, tout à fait, oui. Alors ça existe, donc ça a été créé, je crois, par l'État, non, il y a quelques années.
En effet, le dispositif des CPTS, hein, des comités professionnels territoriales de santé, c'est un dispositif national, mm-hmm. qui a été créé par des lois de modernisation de la santé et qui permet donc le financement de ces associations sur l'ensemble du territoire français, mm-hmm. mais à l'initiative des professionnels eux-mêmes, hein, en fait. Hein, mm-hmm. C'est donc pas... Enfin, ça reste des associations, hein, oui. loi 1901, mm-hmm. hein, qui sont basées sur le volontariat. C'est quand même essentiel de le dire, mais avec des subventions publiques qui nous permettent d'agir et de, quelque part, de mettre en œuvre voilà, les projets qu'on avait envie de faire avancer et qui nous paraissent prioritaires. Selon en fait une évaluation un petit peu des besoins de notre territoire qu'on a fait en amont.
Oui, donc il y a un maillage qui va jusqu'au département, même plus petit que le département, puisque ici vous avez une Côte-Sud des Landes, bon c'est pas que toutes les Landes.
En fait oui, voilà, sur le département des Landes, alors il y a encore des CPTS qui continuent de se monter, mmh. et on est je crois à 12 CPTS sur le département actuellement.
D'accord.
Donc la nôtre de CPTS, voilà, je vous disais, c'est à peu près le territoire de Max, donc mmh. grosso modo, de Moliètes à La Benne, en allant jusqu'à Saubus, Saint-Martin-de-Hinx, un petit peu du côté, ouais. est, hein, mmh. Voilà.
D'accord. Alors c'est constitué. Alors, l'association est constituée de. Il y a des bénévoles, des salariés. Vous êtes médecin, donc médecin généraliste. Ouais. Vous faites partie de l'association. Tous les membres de l'association sont des médecins. Ou il y a aussi des infirmières, des.
Alors, c'est justement un des aspects essentiels, hein, des CPTS. C'est leur aspect pluriprofessionnel. D'ailleurs, on dit mmh. professionnel, on devrait dire pluriprofessionnel. C'est-à-dire qu'en fait, cette association, elle est ouverte et elle a pour même principe d'être ouverte à toutes les professions mmh. De santé inscrites au répertoire des professions de santé. Hein, mmh. Donc, en effet, il y a des infirmiers, infirmières, kinés, orthophonistes, mmh. Podologues, ouais. Psychologues, etc.
Hein, d'accord.
Donc, par rapport à cette notion de parcours des patients, en fait, hein, c'est chaque profession a à la fois son expertise, des patients qui vont voir dans tel ou tel contexte, et de tout simplement, en fait, de se retrouver en association, ça permet de se connaître aussi, de mieux connaître les rôles, les capacités des uns des autres, hein, même des capacités spécifiques individuellement.
Oui.
Hein, et de créer des réseaux de fonctionnement et de travail qui peuvent permettre de mieux prendre en charge les patients hein, grâce à un parcours beaucoup plus fluide grâce à ça.
D'accord. Alors, ça, vu de l'extérieur, pour quelqu'un comme moi qui ne connaissait pas, ça paraît bête même de dire tiens, mais ça n'existait pas avant, dans le sens où qu'est-ce qui pouvait fédérer et gérer la connexion et la communication entre les professionnels de santé avant qu'existe le CPTS, en fait.
Effectivement, historiquement, les professionnels libéraux étaient très isolés. Chacun avait son réseau, hein, forcément. On a tous besoin, dans ce domaine, d'avoir un réseau... soit de spécialistes ou de paramédicaux autour de soi, hein, pour parler de la situation d'un médecin généraliste.
Ouais.
Mais voilà, c'était souvent l'initiative d'une personne et juste centré comme ça. Aujourd'hui, les soins s'organisent d'une façon beaucoup plus coordonnée. Hein, on voit bien, il y a des maisons de santé pluridisciplinaires qui s'organisent un peu partout, qui permettent de travailler d'une façon beaucoup plus collaborative, structurée aussi, et de faire des projets... penser et réfléchir sur du moyen, long terme pour essayer d'arriver à des objectifs. Donc la CPTS, c'est, contrairement à une maison de santé, c'est pas une structure qui fait du soin par elle-même.
Oui.
C'est une structure qui regroupe des professionnels. Donc on soigne pas les gens dans la CPTS.
Oui.
On regroupe des professionnels autour de projets pour améliorer l'organisation des soins, la prévention, l'accès aux soins, comme je vous ai dit.
D'accord, très bien. C'est bien que c'est. Du coup, il y avait vraiment un trou dans la raquette là, à cet endroit-là, au niveau de la. Voilà.
Franchement, oui. Donc, c'est ce qui fait que je suis convaincu de l'intérêt. Et ensuite, tout ce que j'espère, c'est que, en fait, cette opportunité, puisque c'est un type d'association qui est financé publiquement par la CPAM, voilà. Et donc, c'est une opportunité. C'est vrai que jusqu'à présent, les institutions de santé, je dirais, n'ont pas pu faciliter, on va dire, ce travail de coordination à l'échelle du monde des soins de ville ou des libéraux, parce que c'est une mosaïque, en fait. Hein.
Oui.
Et donc, d'être ensemble, ça ouvre des possibilités. Ça permet de répondre à des motivations, parce qu'il y a plein de professionnels qui ont des projets, mais qui n'avaient pas les moyens, l'organisation, la coordination.
Le temps aussi.
Le temps pour tout cela. Et donc pour moi, c'est une belle opportunité de réaliser justement des améliorations dans notre système de soins local.
D'accord, moi, de toute évidence, les patients vont bénéficier de la dynamique qui est créée par cette relation que vous mettez entre les praticiens.
Ouais, je l'espère, ouais.
D'accord. Ouais. Alors, du coup, je vous ai sous la main. Vous êtes médecin. Pouvez-vous me raconter un petit peu votre historique, si ça ne vous embête pas?
Alors, mon parcours personnel, en fait, ça fait depuis 2010 que je suis installé comme médecin généraliste à Seignos. Dans un cabinet de groupe, hein, on était trois et désormais quatre associés. On a un cabinet d'infirmières qui est également dans nos murs. On n'est pas une MSP au sens strict administratif, mais on a le sentiment de travailler un petit peu comme une maison de santé pluridisciplinaire avec justement un réseau. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup dans cet exercice, justement, c'est la qualité des échanges qui se sont créés, l'évolution. Pour ma part, ça fait également une dizaine d'années que je suis maître de stage universitaire, donc je reçois plusieurs internes en médecine, donc des étudiants qui sont entre la 7e et la 10e année de médecine, à mes côtés sur des stages d'environ 6 mois. Donc, tout ça, ça permet, je trouve, d'enrichir les contacts, d'enrichir la pratique. Pour moi, j'ai toujours été convaincu que tous ces échanges permettaient d'aller dans le bon sens, mmh. aussi bien pour moi, pour mon développement, on va dire, personnel et oui, professionnel, bien sûr, oui. mmh. que pour les patients qui, à mon avis, s'y retrouvent.
Mmh. Ouais, alors, ça doit, on peut s'imaginer que ça, c'est entre guillemets plus sympa d'être à plusieurs dans un cabinet que... On peut des fois avoir l'image un peu old school d'un médecin de village qui est tout seul dans son petit bureau. Ça ne va pas être très marrant. Et puis, il n'y a pas d'interaction avec des collègues. On va avoir tendance un petit peu, entre guillemets, à s'enquister. Enfin, non, si c'est un terme qui peut s'employer.
Bah, les métiers de soins, c'est des métiers qui peuvent être durs, hein, usants. Hein, oui. Voilà, ça demande beaucoup d'investissement personnel. On est... confronté à des situations qui peuvent être extrêmement difficiles.
Oui.
Même avant l'exercice, on va dire, en groupe, hein, il y avait quand même hein, des associations de professionnels, mmh. Des groupes de pairs, des groupes de parole. Mmh. Toutes ces choses-là existent, mais très clairement, de travailler à plusieurs, de pouvoir, entre deux consultations, échanger avec un collègue, mmh. D'avoir des opportunités comme ça, de partager des décisions, de prendre des choix posément et avec soit des collègues ou d'autres professionnels, mmh. ça change complètement la donne. Et en termes d'épuisement professionnel, en termes d'épanouissement et en termes de qualité des soins, je pense que c'est un plus absolument évident.
Ouais, d'accord. Très bien, mais c'est le moment de faire notre première pause. On va écouter un petit peu de musique, on se retrouve tout de suite après. Nous voilà de retour. Alors, c'était Frédéric François avec « Je voudrais dormir près de toi ». Et alors, il y a un message caché dans cette chanson, voilà, parce qu'il y a une actualité, quelque chose qui se passe demain au Baïa, vendredi 14 mars, et ça parle de sommeil. On va en discuter.
En effet. Voilà, ben la CPTS organise en effet demain matin, vendredi à partir de 9h30 au Baïa Cap-Breton, à l'occasion de la Journée mondiale du sommeil, un événement destiné au public ou aux professionnels de santé et aux professionnels de santé qui seraient disponibles sur ces horaires. Mais voilà, c'est vraiment un événement qui a pour but de... D'abord, il y a une conférence hein, sur le sommeil, la santé. Hein, donc c'est vraiment autour des problématiques de sommeil hein, qui sont très importantes hein, en termes de qualité de vie, en termes de santé. C'est un sujet... voilà, qui est d'actualité parce qu'on se rend compte hein, véritablement que beaucoup de personnes ont des troubles du sommeil. Parmi ces troubles du sommeil, on pense aux apnées du sommeil hein, notamment, hein, qui s'avèrent extrêmement fréquentes et préjudiciables hein, pour l'état général. Ça entraîne de la fatigue, des troubles multiples, y compris cardiovasculaires. Demain, je crois qu'il y a une occasion vraiment chouette de rencontrer de nombreux professionnels, médecins, kinés, dentistes qui sont impliqués, psychologues également, qui sont impliqués dans la prise en charge de ces troubles du sommeil pour avoir des informations, pour faire du dépistage. Pour avoir également des informations préventives hein, sur le mode de vie, sur la gestion de dettes du sommeil, du stress, connaître un petit peu mieux les prises en charge possibles hein, et également l'impact en fait, de ces troubles du sommeil qui existent aussi chez l'enfant. Hein, c'est plutôt récent en fait hein, cette prise en charge et il y a véritablement des solutions qui existent hein, pour cela donc voilà je crois que j'invite tous ceux qui sont disponibles à se rendre à cette matinée d'information et d'atelier.
On connaîtrait tous quelqu'un qui a l'apnée du sommeil et puis on peut en avoir soi-même et c'est vrai que les incidences sur la santé sont à long terme sont importantes. Alors et puis voilà, c'est comment dire investir dans la prévention, c'est économiser pour l'avenir puisque les troubles qui vont apparaître, qui sont à prendre en charge par le système de santé, ben si on ne soigne pas ces apnées-là, on aura des maladies cardiovasculaires. Je crois aussi qu'il y a une sorte de de cercle vicieux entre le poids, hein, c'est-à-dire plus on a de poids, plus on a d'apnée, et plus on a d'apnée, plus on a de poids. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir un petit peu, effectivement, les personnels qui seront acteurs de cette manifestation, parce que vous avez parlé de dentiste, on va dire, mais quel rapport d'un dentiste avec le sommeil ? Mais il y en a un.
Il y en a un, bien sûr, puisque en fait, quand on parle d'apnée du sommeil, très souvent, ce sont des apnées obstructives du sommeil qui sont liées en fait dans la nuit, voilà, un blocage en fait du passage de l'air, hein, mm-hmm. au niveau du pharynx.
Oui.
Il y a des anatomies particulières, hein, mm-hmm. chez certaines personnes qui font que dans la nuit, en fait, l'air passe mal, hein, au niveau de cette zone du pharynx. Et lorsque les apnées ne sont pas trop sévères, lorsque on peut agir comme ça, et parfois c'est aussi une préférence des patients qui souffrent, hein, de ces apnées, hein, parce que faut le dire, hein,
oui.
Dans bien des cas, ces apnées, elles entraînent, au-delà du risque cardiovasculaire, elles entraînent une fatigue importante, mmh. une somnolence dans la journée, mmh. des troubles de la tension.
Oui.
Ça peut être même cause d'accidents de la circulation.
Mmh.
On peut avoir de l'inconfort, hein, des sueurs nocturnes, mmh. des maux de tête, des troubles de la libido, de l'érection. Enfin,
oui.
Toutes ces choses-là, voilà, elles sont ressenties, parfois pas du tout associées à la notion d'apnée, hein. Parfois on ne le sait pas, il faut se faire dépister, hein.
Oui, oui.
C'est extrêmement fréquent.
Oui, oui.
Et donc pour revenir à la question des dentistes, lorsque cela est possible, hein, on peut envisager d'installer une orthèse d'avancée mandibulaire, une sorte d'appareil qui se porte tout simplement la nuit, et qui s'enlève, hein, voilà, on va le mettre juste pour dormir, et qui va avancer un petit peu la mandibule et ainsi libérer le passage de l'air. Et non seulement on va éviter un certain nombre d'apnées, et en plus on va souvent améliorer d'éventuels ronflements.
Oui, parce que en fait c'est les ronflements sont souvent un indice, hein, qui permet de parce qu'effectivement c'est je sais pas comment ça s'appelle, toute cette masse, la langue, tout ça qui s'affaisse. Hein.
Ouais.
Les ronflements, c'est l'air qui passe de force.
C'est ça.
Oui, donc dans les traitements, est possible, il y a cette espèce d'appareil qui met la mâchoire inférieure en avant.
Voilà,
donc,
qui est parfois, alors lorsque les apnées sont pas trop importantes, hein, c'est une solution qui est intéressante parce qu'elle est relativement légère
portable,
appréciée souvent par les personnes, et ça marche plutôt bien. Voilà, ça, c'est évidemment toujours évalué au cas par cas.
C'est vrai. Alors moi j'espère qu'il y a des gens qui viendront se faire diagnostiquer, parce que bon, je conçois, parce que bon, on a parlé de cette orthèse. Tout le monde connaît aussi la solution de la machine à pression positive. Voilà. Alors, je crois que ça, c'est peut-être une chose qui fait un peu peur aux gens, parce qu'ils disent, moi, je ne veux pas avoir ce truc sur la figure quand je dors, etc. Mais bon, parmi les inconvénients de l'apnée du sommeil, ça peut aller plus loin qu'une simple fatigue. Ça peut être aussi, il y a quand même à un moment donné un risque de défaut d'oxygénation du cerveau.
Ah oui.
On peut ne pas se réveiller un jour, en fait, ou se réveiller sous forme de légumes, entre guillemets. Il ne faut pas faire peur aux gens.
Mais
il faut quand même que les gens, il faut se diagnostiquer.
L'impact de l'hypertension, hein, c'est énormément associé à des problèmes métaboliques, hein, de surpoids, d'hypertension, et de risques cardiovasculaires, hein. Donc en effet, les risques, ils peuvent être majeurs. Alors si jamais dans votre entourage ou votre compagne ou votre compagnon remarque des apnées, il n'y a aucun doute, il faut aller consulter.
Oui, tout à fait, oui.
Hein, ou des forts ronflements associés à ces facteurs de risque là, il faut aller se faire dépister, parce que c'est très très fréquent. Ensuite, par rapport à l'appareillage, voilà, lorsque les apnées sont évaluées, hein, ça passe toujours par une phase de diagnostic, hein, il ne faut pas ni s'inquiéter, il faut, lorsqu'il y a un doute, déjà consulter son médecin généraliste, je pense, c'est le premier qui donnera son avis, hein. Il y a des petits questionnaires, des éléments qui permettent de se mettre sur la voie, et si cela est nécessaire, voir donc un spécialiste du sommeil qui réalise un enregistrement nocturne. Généralement, ça se fait très simplement sur une nuit à la maison maintenant. Oui, hein. Avant, il fallait passer une nuit en clinique, tout ça, c'est plus le cas.
Oui.
Et ensuite, on lit les résultats et il y a des capteurs, en fait, hein, voilà, respiratoires et autres. Comme tu le disais, c'est assez marquant. Hein. On voit, hein, lorsqu'il y a des apnées, la saturation d'oxygène qui chute, les apnées qui sont parfois très longues.
Oui. Bah,
de lire ça,
c'est, quand on voit les courbes, on comprend en fait.
C'est assez impressionnant.
Oui.
Et les gens qui portent une orthèse, c'est vrai qu'il y a, quelques années, les retours n'étaient pas toujours très favorables des patients. Moi, dans mon activité, franchement, ça a complètement changé. Je crois que le matériel s'est perfectionné.
Tout à fait.
Et il y a un certain nombre de choix aussi d'appareils, hein, de pression positive continue qui permettent, voilà, d'avoir un confort. Et les patients, en général, sont extrêmement satisfaits et ressentent un bienfait. Et donc, ils veulent plus s'en passer, en général.
Oui. Alors, on va faire une nouvelle pause. On va écouter le flash d'info local concocté par mon collègue Nicolas. Puis, on va continuer à parler de ce sujet parce que c'est vrai que ça concerne beaucoup de gens. Et puis, vraiment, moi, je vous assure, pour l'avoir vécu, il y a un après, un avant. Ça vaut le coup de se faire diagnostiquer. T'es Étienne Dao avec Le Grand Sommeil, évidemment. Oui, alors, on voulait faire un petit rappel. On a reçu la semaine dernière la Ligue contre le cancer et on voulait reparler de Mars Bleu. Hein, parce qu'il y a quand même un parallèle aussi. C'est vraiment ce défaut de diagnostic, alors que c'est tellement facile et gratuit. C'est vraiment trop dommage de ne pas le faire.
Oui, tout à fait. Voilà, au niveau de la CPTS Côte-Sud-Land, on a vraiment envie de mettre le paquet sur la prévention et sur le dépistage. Et un peu comme Octobre Rose, hein, qui est bien connu,
voilà.
Mars Bleu, c'est un moment dédié à la prévention du cancer du côlon, des cancers colorectaux. Et qui sont quand même le deuxième cancer, hein, en termes de mortalité, hein, en France. Donc c'est absolument énorme. Et malheureusement, il y a un dépistage organisé qui est proposé pour tout le monde entre 50 et 74 ans, qui est extrêmement simple à réaliser.
Ah oui.
Qui se fait en fait tout seul à la maison. Hein. Y a une campagne en ce moment à ce sujet. Donc vraiment, c'est extrêmement simple. Hein. Et avec ce dépistage, on peut dépister très précocement des lésions qui sont, on va dire, potentiellement, hein, qui pourraient évoluer vers des cancers, à un stade où ça ne donne aucun symptôme. Donc, en fait, on peut traiter d'une façon hyper simple ces lésions, alors que si on ne les dépiste pas, on se retrouve face à une catastrophe qui peut être mortelle.
Et oui, c'est-à-dire qu'une fois que les symptômes sont là, c'est souvent trop tard. C'est un cancer qui se soigne super facilement au tout début, et à la fin, non. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des gens qui en meurent, plus de 17 000 par an d'ailleurs, personne.
C'est absolument énorme. Les gens qui sont diagnostiqués au stade où c'est déjà développé, on est sur des traitements lourds, chirurgie, chimiothérapie, etc., avec des résultats variables selon les stades.
Oui.
De faire ce dépistage, hein, je n'ai pas les chiffres précis en tête, mais on est aux environs de 30% de réponse à ce dépistage.
C'est ça.
C'est une catastrophe. Il faudrait au minimum être au-dessus de 50% pour avoir vraiment quelque chose de probant. Et il y a un kit qui existe, que vous pouvez avoir chez les professionnels de santé. Pour certains, vous le recevez directement chez vous à partir de 50 ans.
Aussi.
En pharmacie, chez votre médecin généraliste.
Ouais, ouais, ouais.
Donc ce kit, il est extrêmement simple, c'est une petite enveloppe. Il y a un dispositif qui est bien conçu et qui permet facilement et sans se salir les doigts de récolter quelques selles, un échantillon qui est éclipsé dans un petit truc en plastique et envoyé par la poste le jour même au centre de dépistage. Vous avez en une ou deux semaines une réponse qui n'est pas inquiétante non plus, hein, d'ailleurs, il faut le dire. Hein, ce test va pas vous faire une annonce affolante.
Non.
Dans 96% des cas, il n'y a rien et c'est hyper rassurant.
Oui.
Dans 4% des cas, ce qu'on diagnostique avec ce test, c'est une présence microscopique de sang dans les selles. Ça peut être pas grand-chose. Et dans ce cas-là, en fait, quand c'est positif, il faut aller voir le gastro-entérologue, le médecin généraliste qui vous adresse au gastro-entérologue, qui réalise à ce moment-là une coloscopie, une endoscopie, un examen relativement simple finalement, et qui permet de traiter, de faire le diagnostic, hein, est-ce que c'est un petit polype, est-ce que c'est une hémorroïde, ma foi, hein,
oui, oui.
Et généralement, ça s'arrête là. Et donc, le problème est résolu avant même qu'il soit arrivé.
C'est ça, il ne faut pas faire l'autruche.
Exact.
Voilà.
Voilà, je le répète, hein, il faut qu'on augmente le taux de dépistage de 20%. C'est hyper important. Vraiment, on est nul pour ça. Il faut absolument que tout le monde se fasse dépister.
Oui, ouais, mais c'est bien d'en insister. Hein, ce qu'on a reçu, on en a parlé, on a fait une émission consacrée à ça. Mais voilà, donc, on a la chance d'être dans un pays moderne et très médicalisé, avec plein de choses qui sont prises en charge sous le régime de la solidarité. C'est vraiment dommage de ne pas utiliser les moyens qui sont à notre disposition.
Voilà, vous aurez le 24 mars, hein, pareil, à Saint-Martin-de-Hinx, avec la Ligue contre le cancer et la Maison de santé de Saint-Martin-de-Hinx. Il y a un événement public, hein, justement, pour prévenir, informer, sensibiliser à ce dépistage, avec, on appelle ça le colon tour. Hein, il y a un colon géant qui est installé.
Un colon gonflable.
Exactement.
Ouais, c'est assez étonnant.
et ce colon qui circule, si on peut dire, d'un événement à un autre, est conçu pour permettre en fait d'expliquer la pathologie et comment la prévenir, hein, j'insiste là-dessus. Hein, et puis également il y a un lien, hein, entre ces cancers et le mode de vie, l'activité, l'alimentation. Et donc à cette occasion il y a justement des ateliers cuisine, hein, qui seront organisés, des ateliers gymnastiques, et de la marche, hein, je le répète, le mode de vie et l'alimentation ont un rôle préventif, comme dans beaucoup de domaines.
Oui, dans la santé globalement, de toute façon.
Et à cette occasion, là, la maison sport santé du territoire, Air Sport Santé, organise une marche.
Alors, il y avait une autre couleur dans la maladie, c'est l'orange. On a parlé à l'instant de quoi il s'agit.
Alors, Orange Care, c'est un peu différent des programmes, de prévention organisés au niveau national. Orange Care, c'est une association locale qui fait suite à Orange Run, pour ceux qui ont connu. Il y a eu pendant plusieurs années, autour du lac d'Ossegor, au printemps, de grandes courses qui ont été organisées par Marie Broussin-Domerque et l'association qu'elle dirige, pour sensibiliser et au cancer féminin, à la base au cancer du sein. Ce groupe-là se réactive. Et le 10 mai prochain, sur toute la journée, il y a un grand événement qui aura lieu, donc toujours autour du lac d'Ossegor, avec une course féminine et de nombreux ateliers, de nombreuses animations autour, alors plus largement, des cancers féminins, de la santé, de la prévention. Donc la CPTS est très associée à ce projet et à cet événement. L'idée, c'est, encore une fois, de faire de la prévention, de l'information. Il y aura de nombreux professionnels de santé qui seront là, des chercheurs qui vont expliquer un petit peu quels sont les progrès. On parlera pas que de cancer aussi, hein, donc également les autres problèmes de santé de la femme, hein, comme l'endométriose, la maison Air Sport Santé sera également associée. Et ça se veut un événement festif. Il devrait y avoir également des moments, des concerts, des food trucks, des choses comme ça, pour rendre la journée plus qu'agréable.
Ok, le rendez-vous est pris.
Voilà.
On va faire notre dernière pause et on se retrouvera pour la dernière partie de cette émission. On revient tout de suite. Et voilà, nous voilà de retour avec Thomas. C'est la dernière partie de l'émission qu'on va utiliser à bon escient, parce qu'on a encore sûrement des choses à dire. L'information, où la trouve-t-on ? Il y a un email si on veut contacter CPTS.
Alors, on est sur le point d'avoir un site internet. latin qui devrait être en ligne probablement, on va dire, début avril. Donc en tapant CPTS CSL sur Google, ce n'est pas encore le cas, mais certainement dans 2-3 semaines, vous aurez accès à beaucoup d'informations sur ce site. Et là, dans l'immédiat, je peux vous donner l'email, hein, contact@cpts-du6csl.fr. Comme ça, vous pouvez facilement contacter l'équipe de la CPTS.
Oui, et puis l'appel est lancé aux professionnels de santé s'ils veulent adhérer à votre association et faire partie du groupe pour leur plus grand bénéfice et le nôtre aussi.
Exactement, il faut bien retenir parce que voilà, parfois ça fait peur de s'engager. En réalité, l'adhésion à la CPTS, c'est participer à une dynamique territoriale. On peut être, comme dans n'importe quelle association, adhérent sans aucune contrainte et à la fois bénéficier des actions et des informations de la CPTS. Et il suffit d'avoir un sujet qui correspond un peu aux actions de la CPTS, qui tient à cœur pour devenir soi-même acteur, on va dire, d'un projet ou d'une action. Ou même avoir l'opportunité de, via la CPTS, de développer un projet avec la CPTS. Donc je pense que c'est vraiment, aujourd'hui on est à peu près 130 professionnels de santé dans la CPTS et on espère beaucoup plus à venir.
Oui, et puis plus il y a de spécialités représentées, plus ça sera large et souple, ça permettra de... C'est faire du réseau en quelque sorte aussi.
C'est tout à fait ça. C'est un réseau ouvert, c'est pas un réseau fermé, c'est pas du réseautage, c'est au contraire améliorer la communication. On travaille beaucoup là-dessus en fait, par c'est cette notion de parcours de soins en fait, facilité. Par l'interconnaissance directe, par des rencontres, et aussi par des moyens, des messageries, des éléments de télé-expertise, des équipes de soins spécialisées qui travaillent comme ça en télé-expertise, avec des outils de santé. Les professionnels de santé connaissent bien ça désormais, mais on essaie d'homogénéiser, de simplifier et de faciliter un petit peu tous ces contacts interprofessionnels.
Oui, tout à fait. Bon, alors c'est l'occasion, on va rappeler donc ce qui se passe demain. Alors moi je fais un petit message personnel aux auditeurs. La machine, c'est pas la fin de la vie, la machine quand on les apnée du sommeil. Et même pour les gens ici, il y a beaucoup de gens qui ont une certaine mobilité, qui vivent en camion, qui se déplacent, etc. Il existe des systèmes, des batteries portables, il existe des prises allume-cigare sur lesquelles on branche la machine. On peut voyager maintenant dans les avions, les gens ont l'habitude, enfin je veux dire, c'est plus... faut pas avoir peur de ressembler à Dark Vador, c'est fini tout ça, vraiment, ça va vraiment vous changer la vie. Voilà.
Si je peux rajouter 2 secondes par rapport à ce que tu viens de dire, non seulement c'est pas la fin de la vie, mais ça peut être le début d'une nouvelle vie, parce que réellement passer d'une fatigue matinale terrible et oppressante à un regain d'énergie, ça change tout, et ça crée vraiment une autre dynamique. Et par rapport au côté qui peut faire peur d'aller se coucher avec sa femme, par exemple, avec une machine, elle va peut-être beaucoup apprécier de plus entendre vos ronflements.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, je confirme, c'est vrai. Ouais, donc demain, 9h30, il y a une conférence et des ateliers. Donc c'est au Baïa Hôtel à Cap-Breton, qu'on ne présente plus, que tout le monde connaît ici, je pense. Et donc, il y aura des conférences avec des pneumologues, des chirurgiens dentistes, des diététiciens. Et le sujet, c'est le sommeil. Et il y aura les ateliers, avec dépistage, troubles du sommeil, PPC, apnée du sommeil, ronflement, etc. Allez-y, faites-vous dépister pour ça et pour tout le reste aussi.
Voilà, venez nombreux. Et encore un message aux professionnels de santé. Venez nous rencontrer et adhérer.
Très bien, merci beaucoup Thomas de cette visite, et je pense qu'on se reverra, en tout cas CPTS reviendra, parce qu'il y a plein de choses à dire pour le plus grand bénéfice de nos auditeurs aussi, parce qu'on veut qu'ils soient en bonne santé pour qu'ils puissent continuer à nous écouter, c'est important.
Merci beaucoup Jean-Philippe.
Merci.